On revient pour ce troisième segment de l'émission avec la revue de presse. On va voir un peu ce qui s'est passé donc au cours des derniers jours au niveau des nouvelles. Et on commence donc à l'international avec l'Université de la Sagesse qui est un pas décisif à l'inclusion universitaire. Donc, l'Université de la Sagesse, qui est une université donc, qui permet aux personnes en situation de handicap de poursuivre des études universitaires. Et quand je parle d'handicap, évidemment, je parle d'handicap de façon large, donc à la fois des handicaps moteurs, mais également, donc par exemple, des troubles d'apprentissage qui pourraient mener des personnes en situation difficile pour avoir accès à l'université. Donc, cette université-là, on l'appelle l'Université de la Sagesse, et elle vient donc d'être... mise sur pied le 3 décembre dernier à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Donc, on a mis 8 départements de l'université en place. Ça se veut donc une université pour les étudiants en situation d'handicap, mais également pour leurs familles, pour les gens qui ont besoin d'une écoute particulière ou les gens qui ont besoin d'une formation particulière. Donc, par exemple, les gens qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Ça a lieu donc au Maroc, cette université-là. On veut permettre donc forcément l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc, on parle d'université qui est complètement adaptée avec des rampes, adaptées aux fauteuils roulants, adaptées avec également des ascenseurs. On veut aussi permettre à des personnes qui auraient de la difficulté au niveau de l'apprentissage d'être suivies, d'avoir un suivi régulier pour avoir pour mettre en place des objectifs avec la personne et répondre à ses besoins particuliers. Donc, on va pouvoir mettre des accommodements en place pour les personnes en situation de handicap qui en auraient besoin, entre autres, par exemple, plus de temps pour les examens, également des locaux fermés pour ces personnes-là en situation d'examen s'il y a besoin, et des preneurs de notes, par exemple. C'est un peu comme on voit dans nos universités ici, donc au Québec, mais étant donné que c'est au Maroc, c'est quelque chose qui est quand même nouveau pour eux et qui fait une avancée, donc, au niveau des droits des personnes en situation de handicap, parce que c'est difficile dans des pays du Maghreb, entre autres, et dans toutes sortes d'autres pays dans le monde, pour les personnes en situation de handicap, d'avoir accès à l'université, soit pour des raisons physiques, donc l'université n'est pas adaptée, soit parce que les besoins des personnes en situation de handicap ne sont pas pris en compte, ne sont pas respectés et enceinte universitaire dans le monde universitaire. On passe maintenant au collectif Handicap qui formule 200 propositions pour l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. C'est un collectif qui réunit 50 associations nationales qui dressent un bilan des avancées par la loi du 11 février 2005 en France. Donc, 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, donc ça fera 20 ans le 11 février, le collectif Handicap se rend compte que finalement, on n'a pas assez avancé pour le droit des personnes en situation de handicap en France. On met donc de l'avant 200 propositions pour rendre pleinement effective la loi du 11 février 2005 qui promettait donc l'accessibilité universelle aux personnes en situation de handicap. Dans une conférence de presse le 14 février, on déplore en fait que le gouvernement français n'ait pas mis d'avant assez financement, mais également n'ait pas mis d'avant assez de projets pour avoir une accessibilité universelle au pays. On a un document donc de 160 pages qui regroupe les 200 propositions pour les personnes des gouvernements pour aider donc l'inclusion des personnes en situation de handicap. On y aborde 18 thématiques comme le logement, les ressources économiques et la justice. Et on veut également formuler des propositions pour faire avancer les droits des personnes en situation de handicap, mais également leur bien-être au quotidien. Parmi les revendications, on veut renforcer la 5e branche de la sécurité sociale dédiée au soutien et à l'autonomie des personnes âgées et en situation d'handicap. On veut également augmenter les moyens au niveau politique des personnes en situation de handicap. Il y a la loi de 2005 mise en place par la Maison départementale des personnes en situation de handicap a mis un guichet unique pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à leurs droits et à leurs prestations. Il s'agit tout de moins d'une grande avancée qu'on reconnaît dans le texte. Toutefois, l'accès aux droits souvent dépend des politiques gouvernementales, des politiques départementales, pardon, mais sont très hétérogènes. Donc, tout dépendant du département où on se trouve en France, on a plus ou moins accès à nos droits et plus ou moins de chances au niveau des services auxquels on a accès, ce qui évidemment va à l'encontre des droits des personnes, des droits universels des personnes, parce que en situation de handicap ou pas, en théorie, on a tous les mêmes droits. Donc, la priorité pour le collectif est de proposer des solutions pour les personnes en situation de handicap et de répondre à des pénuries de professionnels formés pour aider justement à atteindre le plein potentiel des personnes en situation de handicap le 10 février prochain, donc à la veille du 20e anniversaire de la loi sur le handicap. On va avoir une mobilisation qui dénonce une action politique insuffisante depuis les années 1975. Alors qu'une loi majeure définissant l'intégration des personnes en situation de handicap avait été mise sur pied comme étant une obligation nationale. Donc, on parle quand même d'il y a 50 ans. Et malheureusement, les avancées sont peu nombreuses. Donc, il y aura une manifestation le 10 février en matière de droit pour le handicap avec le collectif pour le handicap, les 54 associations qui en font partie. Finalement, on a le DMLA qui est la première cause de handicap visuel en France. C'est une dégénérescence maculaire. On en a parlé un petit peu plus tôt avec le docteur Barnier, qui est à l'âge qui touche environ 1,5 million de personnes de plus de 50 ans en France. Elle doit être repérée tôt et avoir un traitement qui aide à mieux prévenir la dégénérescence pour les personnes qui en sont atteintes. La fréquence de la dégénérescence maculaire est un facteur de risque extrêmement important pour la perte de vision en France. C'est également le cas, évidemment, au Canada. Ici aussi, on a différents problèmes au niveau de la dégénérescence maculaire qui causent, on l'a dit plus tôt, des problèmes au niveau de la vision. La prise en charge du degré la prise en charge dépend du degré d'évolution de la maladie maculaire et de sa forme. Donc, plus l'avancement de la maladie est tôt, plus on a d'options de traitement et plus c'est pris tard, évidemment, plus les options de traitement sont limitées. Donc, j'encourage à aller voir un professionnel pour la santé des yeux de façon régulière pour être capable de faire des suivis et pour être capable de détecter donc s'il y a un problème à vos yeux avant que ça devienne un élément problématique. Donc, il faut toujours consulter chaque année, même quand on n'a pas de problème particulier, parce qu'on peut ne pas avoir encore de symptômes et développer des différents problèmes au niveau de la vision, entre autres la dégénérescence maculaire qui cause des problèmes et éventuellement pourrait causer donc un aveuglement total pour les personnes qui la subissent. La façon de ne pas en arriver là, évidemment, c'est d'avoir des traitements rapidement lorsque la maladie est détectée. Donc, on vous revient après cette légère pause pour avoir des nouvelles au niveau local. Maintenant, au niveau local, on fait un retour sur le sommet virtuel des terrains inexploités de 2025. C'est un mini-colloque qui est organisé par le Conseil canadien de la réadaptation et du travail. Quand je dis mini-colloque, c'est littéralement un mini-colloque, ça a duré 3 heures. Par contre, on a pu voir donc des questions d'accommodation au travail. Aussi, on a parlé des hésitations à demander des accommodations au travail. Il y a beaucoup de gens donc qui hésitent à demander des accommodations par peur, par exemple, de perdre leur emploi ou par peur d'être jugé par les collègues ou par les supérieurs. Il y a quand même 1 personne sur 10 également, selon les études, qui ont fait face en 2024 à un refus d'emploi directement lié à leur handicap. Donc, on vous rappelle que ça, c'est illégal, mais que ça arrive encore. Donc, par exemple, la Commission des droits de la personne là, peut vous aider à avoir des recours si jamais quelque chose comme ça vous est arrivé dans les derniers mois. Mais ça montre à quel point on a encore des difficultés pour les personnes en situation de handicap d'avoir accès au marché du travail malgré le fait que ces personnes-là soient compétentes et aillent différents diplômes qui peuvent attester de leurs compétences. Il y a aussi une hausse d'emploi des personnes en situation d'handicap qu'on a vu pendant la pandémie. Et ça, ça pose des questions à savoir comment on peut faire en sorte que les personnes en situation d'handicap soient capables d'accéder au marché d'emploi maintenant que la pandémie est grosso modo terminée. Ce qui a fait en sorte qu'il y ait une hausse des personnes en situation d'handicap, c'est bien sûr, évidemment, il y a télétravail. Mais également, il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, peut-être que de mettre le télétravail plus accessible, c'est une façon, par exemple, de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder au travail facilement. Finalement, dans la région des Laurentides, on est la seule région au Québec à avoir développé un modèle central exclusivement pour le prêt d'équipement adapté. Donc, Loisy-Laurentides a récemment lancé un point de service pour le prêt d'équipement pour faire du sport ou des activités physiques. Si vous voulez faire des sports d'hiver, vous pouvez accéder à Loisy-Laurentides et avoir un prêt pour des équipements. Ça permet évidemment à des personnes en situation de handicap de tester différents sports, différentes activités d'hiver. Et les prêts sont gratuits. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait avoir évidemment dans toutes les municipalités au Québec. Et on salue l'initiative de Loisy-Laurentides de mettre de l'avant ce système de prêts pour des équipements de sport et des équipements d'activité pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. C'est tout simple, mais ça fait une différence pour les personnes qui veulent bouger et pour leur santé mentale. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les nouvelles et pour l'émission Sans détour. Merci à Mathieu Tessier à la régie.